Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jacques-Yves Molima à la présentation de votre journal.
Nouvelle politique salariale en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement s'y attelle. Désormais, la paye des fonctionnaires de l'État connaîtra une régularité exemplaire. Une directive est émise quant à ce. Examen d'État édition 2024, c'est ce lundi 24 juin en République démocratique du Congo. Dans ce journal, nous irons à Beni dans le Nord Kivu pour voir comment les finalistes déplacés des guerres et autres se préparent pour ces épreuves. Ils se disent déjà confiants. Enfin, notre invitée dans cette édition du journal, c'est Nathalie Boussienne, administratrice principale chargée de la protection au sein de la sous-délégation du HCR à Goma. Elle nous parle de la situation des réfugiés dans la province du Nord Kivu. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La paye des fonctionnaires de l'État de la République démocratique du Congo connaîtra désormais une régularité exemplaire. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé, a pris des mesures fermes pour garantir que tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire avant le 28 de chaque mois. Cette décision, Michel Kifindangoy, est le fruit d'une directive émise lors d'une réunion présidée ce vendredi par Yannick Issassi, le président intérimaire du comité de suivi de la paye.
Au cours de la réunion de ce vendredi à Kinshasa, le président intérimaire du comité de suivi de la paye présente aux responsables des principales banques du budget de la fonction publique des FARDC et du CECOPE cette nouvelle politique salariale. Yannick Issassi.
Nous avons été instruits par le ministre des Finances pour faire un état d'avancement des opérations de la paye du mois de juin. L'idée c'était d'évaluer un peu l'évolution de ces opérations-là. Je peux vous dire que on est sorti très satisfait de cette réunion.
Yannick Issassi affirme que les salaires seront désormais versés le 25 du mois.
Comme l'avait souhaité le gouvernement, la semaine prochaine, la paye va se clôturer. Aujourd'hui, pratiquement tous les opérateurs de paye ont été approvisionnés en fonds et le processus s'est fait graduellement, mais on s'est mis d'accord avec eux pour que la clôture de la paye s'efface au plus tard le 28.
Cette nouvelle mesure met ainsi fin à des semaines d'incertitude et des spéculation parmi les fonctionnaires. Yannick Issassi annonce une vérification ce mardi dans différentes banques de la capitale pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de cette mesure qui traduit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de ses employés.
Encore une sonnette d'alarme de l'intersyndicale de Transco en rapport avec la situation d'incertitude qui gangrène le bon fonctionnement de cet établissement public des transports en RDC. Dans une déclaration devant la presse ce vendredi à Kinshasa, le vice-président de l'intersyndicale de Transco a demandé au gouvernement d'apporter des solutions isidoines aux multiples problèmes qui mettent à mal cet établissement public. Jean Moulunda parle du manque de la dotation, des subventions pour pallier les manques à gagner, le ravitaillement en compte-gouttes du carburant, les salaires modique pour ne citer que cela. L'intersyndicale de Transco sollicite encore une fois la tripartite gouvernement Transco banque syndicale autour d'une table pour analyser à fond les vrais problèmes de redressement de cette entreprise à caractère social. Le propos de Jean Moulunda, vice-président de l'intersyndicale de Transco, ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Plusieurs correspondances ont été adressées auprès des autorités de la République, dans lesquelles nous avons eu à présenter en détail les problèmes majeurs qui pèsent ces prestigieux établissements publics notamment. La subvention en carburant et lubrifiant dont le ravitaillement est à compte-gouttes depuis un certain temps. La subvention d'équilibre en suspension depuis 2016. Les créances des personnes non payantes jamais payées. La dotation du gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Longue histoire. La convocation de la tripartite, n'en parlons même pas. La situation calamiteuse des Transco n'est pas à démontrer. Qui ne vit que des moindres recettes locales, les coûts du billet à 500 francs, la tarification d'autorité avec un effectif de plus de 3000 agents et cadres, et quel salaire doivent-ils s'attendre si pas celui le plus modique par rapport aux agents d'autres services publics de l'État?
Et puis cette nouvelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lance ce samedi 22 juin, en début d'après-midi, les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa depuis Mitendi. Il s'agit d'une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville pour désengorger les artères au centre de Kinshasa. Ce lancement intervient après des longues études menées par les experts de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, de l'OVD, de l'Office des routes et les partenaires du programme sino-congolais. Billy Yvan Lutumba nous donne quelques détails sur ce projet.
Cette route sera construite sur un tracé long de 63 km. Elle est à réaliser en quatre bandes et formera une partie de la boucle autour de Kinshasa, renseigne la CGT. Le tracé de cette route traverse les localités et quartiers Lutendele, Djokol, Ngombi, Kudiabaka vers le Congo central, Mitendi, Kimwenza, Njili Brasserie pour les communes Mongafula, Njili et Kimbanseke. Lors d'une visite du tracé de ces routes avec divers services étatiques, privés et autres intervenant en mai dernier, le directeur général de la CGT avait souligné la motivation de ce projet, en l'occurrence le souci de désengorger les artères de la capitale et de contribuer au développement des aspects touristiques le long de la périphérie de la ville de Kinshasa. Ce projet est exécuté dans le cadre du programme sino-congolais avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars, puis révisé et maintenu à 7 milliards d'après la CGT. Signalons que c'est l'Agence congolaise des grands travaux qui est maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, accompagné de l'entreprise contractante SISCSA.
Et puis vous le savez déjà, le chef de l'État a lancé jeudi dernier à Lubumbashi les trains du service national. La cérémonie a eu lieu à la gare de la SNCC où ils étaient positionnés. Ces engins vont circuler sur les rails de cette compagnie ferroviaire. À quelles conditions cela se fera-t-il? La réponse avec le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kabouik, au micro de Jean Gandou.
Tous les partenaires qui ont signé la convention de passage avec la SNCC payent un droit de passage. Parce que la voie ferrée ne nous appartient pas. Les installations ne nous appartiennent pas. Lorsque vous avez importé le matériel ferroviaire, vous ne le gardez pas dans votre garage. Ils sont gardés dans les installations de la SNCC. Ils circulent sur les installations de la SNCC qui met aussi à votre disposition son expertise. C'est comme ça qu'il y a eu la conclusion d'une convention sur instruction du commandant suprême. La convention entre les services nationaux et la SNCC, c'est une convention qui est particulière, avec plusieurs avantages qui sont accordés au service national en ce que c'est un service de l'État. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale qui va faire du commerce pour avoir du bénéfice, mais c'est une structure paramilitaire qui est là pour accompagner les actions du gouvernement, les actions des forces armées et les actions des autres citoyens pour le développement. Et donc, la convention a été conclue de telle sorte que 25% de la valeur du coût du transport devra être payée à la SNCC pour qu'elle fasse face aussi à certaines dépenses inhérentes à son fonctionnement. Donc, elle est tout à fait normale. Au lieu de considérer que c'est du matériel de l'État, il va circuler gratuitement, on appauvrirait encore beaucoup plus la SNCC. Voilà, c'est de cette manière que la convention a été conclue.
À Beni, au Nord Kivu, à quelques heures de la session ordinaire de l'examen d'État 2024, nous l'avons dit au sommaire, les élèves finalistes et déplacés vivant dans la ville disent être confiants. Malgré l'insécurité dans leur milieu d'origine, ils affirment s'être bien préparés pour ces épreuves terminales des études secondaires. Les autorités scolaires assurent que quant à l'accompagnement de ces élèves. Suivons ce reportage des Grévis Salomon.
Shafiko Asula est élève finaliste dans l'option de construction au complexe scolaire Basai Vusai, situé dans la commune de Bulekera dans la ville de Beni. C'est depuis mars dernier qu'il a fui l'insécurité dans la localité de Makumo, située à une soixantaine de kilomètres de Beni à la suite des attaques des rebelles ADF. Il parle de sa préparation à l'examen d'État.
Nous sommes bien préparés parce que nous sommes formés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Nous nous préparons bien, pas d'inquiétude vraiment. Nous avons beaucoup étudié, nous avons confiance à la matière donnée par nos assistants. Nous avons aussi rattrapé après notre arrivée ici à Beni.
Les autorités scolaires indiquent avoir pris le temps d'encadrer ces élèves au même pied d'égalité que leurs pères. Dani Kambale Mwonga, directeur des études au complexe scolaire Basai Vusai.
Nous sommes en train de les demander d'être calmes parce que le programme national est uniforme, la dispensation de matière est la même. Nous sommes en train de leur donner certaines instructions d'une manière psychologique. Ce sont nos affaires et nous avons le devoir de les encadrer comme les autres.
Le responsable de la sous-division de l'EPST Beni, Olivier Matsurolenge, indique que toutes les dispositions sont déjà prises pour la bonne passation de la session dans les 15 centres au niveau de la ville de Beni. Beni, Grévis Salomon, Radio Kapi.
Parlons sécurité dans cette édition du journal Direction Nord Kivu. Là, des accrochages sont signalés tôt ce samedi sur trois axes différents dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Ils opposent les combattants Wazalendu aux rebelles du M23, dont les Masisi et les Wazalendu auraient lancé des attaques contre les positions du M23 à Kisuma et à Kibabi d'une part. D'autre part, une position des rebelles a été incendiée à Bishigiro, à quelques 3 kilomètres de Tongo Centre, dans les territoires de Rutshuru. Par ailleurs, une accalmie relative s'observe dans la région de Kanyabayonga après des combats d'hier vendredi dernier. Le bilan des bombardements de ce vendredi dans la région de Kanyabayonga cependant est revu à la hausse. Un notable sur place parle de 4 morts dont 3 civils et 1 militaire succombé de leurs blessures ainsi que de 2 autres civils blessés. Entre-temps, en Ituri, des violents combats opposent depuis 2 jours un groupe de miliciens de la Codeco et d'autodéfense Zaïre à l'Odio-Gangala, c'est à 100 kilomètres de la ville de Bounia dans les territoires de Djougou. Des sources de sécurité avancent un bilan de 40 personnes tuées, plusieurs blessés ainsi que de disparus. Des notables de cette entité, Ezekiel Muzalia, demande au gouvernement de s'interposer entre ces 2 groupes armés pour imposer la paix dans cette région.
C'est depuis jeudi, en début d'après-midi, qu'un groupe de miliciens d'autodéfense Zaïre s'est introduit en tirant des coups de feu dans les chantiers miniers Bendere, dans le groupement Moussaba, en chefferie de Mabendi. Ils ont été repoussés par un autre groupe de miliciens de la Codeco à Bianda, où les affrontements se sont poursuivis. Le premier bilan avancé par des sources locales fait état de 7 personnes tuées, 10 d'autres blessées et plusieurs maisons incendiées. Ces affrontements se sont poursuivis vendredi entre les 2 groupes armés dans le village Bata, rapporte des sources concordantes. 4 personnes, dont 2 miliciens de la Codeco, sont tombés sur les champs. En représailles, les miliciens de la Codeco ont pris d'assaut le village Lodjo-Gangala, bastion de la milice Zaïre, où des combats se sont poursuivis pendant au moins 4 heures. Des sources de sécurité et coutumières locales déplorent le meurtre de 36 personnes composées de civils et des miliciens, dont certains portaient des tenues d'effardessés. Le porte-parole de l'armée à Ituri ne confirme pas encore ce bilan, mais il reconnaît que parmi les victimes, il y a des miliciens en tenue militaire. Le lieutenant Jules Ngongo ajoute que des dispositions sont prises pour restaurer l'autorité de l'État dans cette région. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, dans les territoires de Beni, la société civile du groupement de Banande Kainama, située à plus ou moins 80 km au nord de la ville de Beni, alerte sur la présence des rebelles des ADEF dans plusieurs villages de la région. Selon Jonas Bin Kasumba, son président, plusieurs entités se sont vidées de leur population pour se réfugier vers des milieux jugés plus sécurisés, notamment à côté des positions militaires. Jonas Bin Kasumba, joint au téléphone par André Kitenge, plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans la région.
Le bruit des bottes continue à se faire sentir autour du groupement Banane Kainama, notamment à Tchalala, Misongo, Bele, Budaki, Kamubuyo et Ibanda là-bas, ainsi qu'à Aizi. Donc c'est vers l'est du groupement Banane Kainama où les traces de l'ennemi sont en train d'être répertoriées là-bas par un certain civil qui essaie un peu d'entrer dans ces brousses-là. Raison pour laquelle nous continuons toujours à rappeler le commandement des opérations Sokola 1 de renforcer les effectifs militaires au sein de notre groupement, parce que pour l'instant, toutes les petites agglomérations qui entouraient le groupement Banane Kainama se sont déjà effacées et toute cette population-là est venue maintenant se concentrer autour des positions militaires, notamment à Kali ainsi qu'ailleurs. Alors c'est une situation qui nous préoccupe, mais nous regrettons fort comment notre demande de renforcement des effectifs militaires n'a jamais été répondue par ces autorités-là.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, 27 pensionnaires, dont une femme sur les 31 détenus au cachot de la police nationale congolaise à Salamabila, se sont évadés. Information livrée à Radio Kapi ce vendredi soir par le coordonnateur de l'ONG au cœur de l'Afrique pour la paix et confirmée par certains notables de Salamabila. L'évasion de ces hommes sans foi ni loi inquiète cette organisation de défense des droits de l'homme œuvrant dans les territoires de Kabambari qui demande aux autorités, surtout judiciaires, de tout faire pour mettre la main sur ces derniers et les ramener dans la prison. Joint par Florence Kizalunga, Fulgence Rousseruka explique.
Cette évasion a eu lieu au moment où le premier substitut du procureur de la République et chef du parquet près le tribunal de paix de Kabambare, accompagné de son épouse, se sont rendus au cachot pour libérer un homme et son épouse qui étaient arrêtés pendant la journée par la police en exécution du mandat d'amener de l'avocat général près la cour d'appel du Maniema. C'est cette libération-là qui a frustré d'autres détenus et c'est à ce moment-là que les détenus se sont soulevés et ont commencé à scander des chants hostiles au procureur pendant que les autres étaient en train de démolir les murs. Il y a eu évasion de 27, dont une femme. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne pouvons que déplorer cette situation parce que cette évasion constitue, par exemple, pour les victimes de violences sexuelles, une menace sérieuse sur leur sécurité. Et c'est pourquoi nous demandons aux autorités judiciaires de tout mettre en œuvre pour réhabiliter dans l'urgence les cachots de la police au niveau de Salamabila parce que ça se trouve dans un état de délabrement très avancé.
Actualité internationale.
La Cour pénale internationale a levé vendredi les scellés sur le mandat d'arrêt visant Iyad Ag Ghali, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou entre 2012 et 2013. Celui qui est aussi connu sous le nom d'Abou Fald fait notamment l'objet des accusations de viol, d'esclavage sexuel et de persécution de femmes et de filles pour des motifs liés au genre.
L'invité.
Le monde a célébré le 20 juin la journée mondiale du réfugié sous le slogan « Pour un monde qui accueille les réfugiés ». En vue de conclure cette célébration au Nord Kivu, la sous-délégation du HCR a tenu une conférence de presse sur la situation des réfugiés dans la province. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Nathalie Boussienne. Elle est administratrice principale chargée de la protection au sein de la sous-délégation du HCR à Goma. Elle s'entretient avec Chris Moukand. Suivez.
Nathalie, le HR organise un point de presse ici à Goma. On peut en savoir les motifs?
Oui, bien sûr. On a organisé un point de presse afin de marquer la conclusion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, qui est célébrée chaque année le 20 juin. Et cette année, on a tenu à célébrer d'une part la résilience des personnes qui sont forcées de fuir, mais également de mettre en avant les perspectives d'inclusion des réfugiés dans leur pays d'accueil, ce qui est vraiment une dimension importante aussi bien pour contribuer à leur protection, mais également pour leur permettre de pouvoir vivre au quotidien au mieux avec les populations qui les accueillent et par ailleurs leur permettre aussi à plus long terme d'apporter des perspectives en termes de solutions durables.
Y a-t-il des réfugiés au Nord Kivu et si oui, quelle est leur situation?
Oui, il y a effectivement actuellement des réfugiés au Nord Kivu. Ils sont plus de 163 000 actuellement à travers la province, dont 2203 dans la ville de Goma. On a donc des réfugiés qui, d'une part, pour certains, vivent en milieu urbain, au sein de la communauté haute, et d'autres qui sont plus dans le reste du territoire de la province, plutôt dans des milieux ruraux, également en vivant en bonne entente avec les communautés hautes.
Il y a également un camp ou des camps de réfugiés?
Au Nord Kivu, il n'y a pas de camp de réfugiés. La RDC, dont on peut vraiment saluer la législation et les politiques en la matière, a vraiment en place des mécanismes favorables qui permettent aux réfugiés de pouvoir s'établir là où ils le souhaitent et donc pas nécessairement dans un camp de réfugiés.
Mais pour les réfugiés urbains, leur intégration pose problème.
Non, les réfugiés de manière générale sont vraiment inclus dans la communauté haute en ville de Goma et vivent au quotidien, d'où d'ailleurs on a pu le voir certaines fois, ils sont tellement bien inclus que les personnes ne réalisent pas qu'il y a des réfugiés au sein de la communauté. Mais je pense que globalement ça se passe très bien et merci également à la population haute en fait de l'accueil qu'elle leur réserve au quotidien.
Au niveau du HR, a-t-on enregistré le souhait de rapatriement de quelques réfugiés?
Oui, ça fait partie effectivement des activités qu'on a en termes de pouvoir trouver des solutions durables en faveur des réfugiés. Le rapatriement volontaire a lieu dans la province du Nord Kivu lorsque les réfugiés expriment ce souhait-là. En l'occurrence, le Nord Kivu accueille principalement des réfugiés rwandais, mais également burundais. Depuis le début de cette année, nous avons ainsi rapatrié volontairement 380 réfugiés rwandais se trouvant au Nord Kivu vers le Rwanda, et de pouvoir ainsi retrouver leur pays d'origine et avoir un futur, tout un beau futur devant eux.
Alors, à l'occasion de cette journée, quel message du HR à l'attention des personnes en état de réfugiés et même du pays hôte?
Alors, c'est la reconnaissance qu'a le HCR de voir la façon dont la RDC accueille les réfugiés, à des politiques favorables et vraiment nous permet de travailler main dans la main avec les différentes entités gouvernementales. Pour ce qui est des réfugiés, je pense que ce qu'il faut retenir, les personnes sont passées par des moments difficiles d'être forcées de devoir quitter leur pays, mais je pense qu'on doit aussi retenir, c'est leur résilience. Avec le gouvernement congolais, le HCR et les autres partenaires, on essaye vraiment de pouvoir travailler au respect du droit des réfugiés, à pouvoir les assister et à pouvoir leur permettre de trouver des solutions durables dans le moyen ou le plus long terme.
Tatali, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous et une excellente journée.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Defs Vita. Alain Irung-Mushing, la coordonnée et supervisée, était à la présentation. Jacques-Yves Molima, Aouta, Missoma Pombadoua. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Radio Capi.